Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut à tous, bienvenue dans Les Fous du Volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec Stéphane Vrignot. Cher Stéphane, je te salue.
Salut Gilles, salut à tous. En forme Gilles ?
Impeccable, on a eu un beau Grand Prix, on va en parler, on s'est régalé. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Comme ça, dès qu'on fait un nouvel épisode avec Stéphane, eh bien, ça arrive directement sur votre application chaque semaine. Avant de vous détailler le menu de cette émission des Fous du Volant, on tenait à faire un coup de chapeau à Sébastien Ogier et Julien Ingrassia qui ont obtenu dimanche dernier leur 7e titre de champion du monde des rallyes. Stéphane, c'est un minimum que l'on pouvait faire parce que 7 titres de champion du monde des rallyes, c'est vraiment une performance impressionnante.
Oui, c'est tout simplement génial. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a. On vit vraiment une époque dorée en sport auto, en rallye. 7 titres, dont 3 avec des constructeurs différents, c'est vraiment ce que je retiens. Et Ogier, c'est un petit peu le pilote aussi qui démontre que ce n'est pas forcément la voiture qui fait tout. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans ces 7 titres, c'est les deux qu'il a obtenus avec Ford. Il a été champion du monde en 2017 et 2018. Et Vatanen était le précédent champion pour Ford en 81. C'est dire la dimension de l'exploit. Et puis, depuis qu'il est parti de Ford, eh bien, Ford n'a plus gagné, tout simplement. Donc, pour moi, Ogier, c'est vraiment un pilote complet d'une très grande dimension. Il a un petit peu le temps d'arriver après Loeb, forcément, mais ses exploits sont absolument extraordinaires, moi, je trouve. Et il est fait du même métal, on va dire, que Sébastien Loeb.
Oui, c'est clair. Et puis, la différence aussi, c'est que Sébastien Loeb est arrivé à une époque où il y avait encore Colin McRae, où il y avait encore Carlos Sainz, des noms qui sont peut-être un petit peu plus ronflants, ou en tout cas, chez le grand public, que l'on reconnaît davantage par rapport à des hauts de Tanak, qui sont également très très forts, hein. C'est pas du tout ce que je dis, mais qui sont évidemment beaucoup moins reconnus par le public. Et puis Sébastien Ogier qui a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison 2021, donc éventuellement après un 8e titre, on sait que le record c'est 9 pour Sébastien Loeb. Alors je ne sais pas s'il faut lui souhaiter une belle dernière saison ou alors espérer qu'il aura envie d'en faire une de plus une fois qu'il sera arrivé juste à éventuellement une longueur de Loeb. On en reparlera dans Les Fous du Volant, s'il s'illustre encore et on n'en doute pas. On reparlera de Sébastien Ogier et aussi de Julien Ingrassia. On fait souvent l'erreur d'oublier le copilote et en rallye c'est très très important. Stéphane, au menu du jour, je te propose en entrée, évidemment, la victoire de Sergio Pérez, la première victoire en F1 de Checo Pérez, le Mexicain, qui s'est donc imposé sur le Grand Prix de Sakhir. Ensuite, en plat de résistance, je te propose l'incroyable numéro de George Russell, le jeune Britannique appelé par Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton, a vraiment donné le tournis au peloton et surtout à Valtteri Bottas. Ensuite, je te propose, en guise de fromage, le premier podium de Esteban Ocon, qui termine deuxième de ce Grand Prix de Sakhir. Et puis, en dessert, un dessert un peu amer, le crève-cœur de Charles Leclerc, qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis lors de ce premier tour à Sakhir. On commence donc, et c'était inévitable, par la victoire de Sergio Pérez, le Mexicain, qui s'est donc élancé à 190 reprises en Formule 1 pour enfin avoir le droit de monter sur la plus haute marche du podium. C'est tout simplement la plus longue attente pour un pilote de Formule 1 avant de remporter une course. 9 années d'efforts entre le Grand Prix d'Australie en 2011 où il avait fait ses débuts et donc cette victoire sur ce Grand Prix de Sakhir. Et j'ai envie de te dire, Stéphane, cette victoire, elle est un petit peu à l'image de sa carrière. Ça commence un petit peu dans la souffrance et puis ça se finit par un succès.
Oui, tout à fait. Et après l'accrochage entre Leclerc et Verstappen, il repart en full peloton 18e parce que Verstappen et Leclerc étaient éliminés. Et c'est vrai, je ne sais pas qui aurait parié sur une victoire de Checo à ce moment-là, d'autant qu'il rentre et qu'il fait rapidement un plat sur ses pneus dans le peloton. Et quand il reprend la course, en fait, sa voiture est un peu en version d'artopiqueur. C'est très étrange, c'est très désagréable. Il change de pneu et dans le deuxième relais, il appelle son équipe et là, il dit ma voiture est une limousine. Donc là, tout s'est bien passé à partir de ce moment-là. Pour moi, la clé de sa victoire, là où il a créé les conditions de cette victoire, puisqu'il a bénéficié de circonstances extérieures, mais c'est parce qu'il est un bon gestionnaire de pneumatique, il l'a toujours été. C'est vraiment une spécialité chez lui. Il n'aurait pas gagné si Verstappen et Leclerc avaient abandonné, s'il y avait eu un couac magistral dans le stand de Mercedes, mais sa grande qualité quand même, il était rapide, il était très rapide de toute façon, avec ses pneus durs, il était irrésistible. En tous les cas, moi, c'est la qualité que je lui vois là. Je ne sais pas si toi, tu en vois une autre, Gilles.
Oui, alors, je disais, hein, 190 départs pour un succès. Je vais te dire, moi, Stéphane, pour moi, alors, on s'étonne souvent, on s'extasie souvent sur la précocité en Formule 1. Je pense à Verstappen ou à George Russell le week-end dernier, ou par exemple à Kylian Mbappé en football. Et on laisse souvent de côté une valeur qui est très importante dans le sport, mais dans la vie en général. C'est la persévérance. Et ça m'a rappelé, moi, une victoire. Alors, en moto, tu sais que pendant quelques années, j'ai commenté les Grands Prix moto. Et il y a un Français, Alexis Masbou, qui lui avait remporté son premier Grand Prix en Moto 3 à son 130e départ. Je ne sais plus si c'était le 129e ou le 130e. C'était en 2014, donc c'est un peu loin. Et c'était à une époque où il était face à des jeunes pilotes qui s'appelaient Jack Miller, Alex Marquez, qui sont aujourd'hui en MotoGP. Et qui ont gagné très très vite. Et on s'extasiait devant cette rapidité finalement à aller au plus haut niveau. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné, bah, c'est justement ce côté où eh ben, ça ne sourit pas, mais on continue, on ne lâche rien. Et quelque part, c'est facile quand on est doué, qu'on est jeune, qu'on arrive et qu'on gagne. Alors quand je dis c'est facile, attention, hein, ne remettez pas tout à l'envers. Mais c'est plus compliqué de rester motivé. Sur la durée, 9 ans, 9 ans, 9 ans pour attendre une victoire pour Checo Pérez. Et je pense que voilà, c'est vraiment la victoire de la persévérance. Et c'est dans ce sens-là que j'ai été particulièrement ému de ce succès du Mexicain. Pour autant, maintenant, Stéphane, est-ce que ça va changer l'avenir de Sergio Pérez en Formule 1? On sait qu'à l'heure où on enregistre cette émission, il n'a toujours pas de volant. Hein. Les deux volants chez Racing Point qui va devenir Aston Martin sont pris par Lance Stroll et par Sébastien Vettel qui va arriver. Et Sergio Pérez, lui, pour le moment, est sur la touche.
Oui, et il va probablement rester sous la touche. On l'a vu discuter avec Helmut Marko à la fin des essais libres 3. Et Helmut Marko l'écoutait d'une oreille un petit peu distraite. Et je ne pense pas que cette victoire ait changé quoi que ce soit. Red Bull a son plan. Il s'appelle Albon. On verra si ils en changent, s'ils ont un plan B. Je crois plutôt que le plan B, ce sera Hülkenberg parce qu'il est soutenu par Verstappen. Et puis, tout simplement, parce que bon, il n'y a pas une grande différence entre les deux, mais Pérez, c'est le pilote qui a eu sa chance dans une grande écurie et qui l'a gâché. C'est ça un petit peu son problème aujourd'hui, l'étiquette qu'il a, c'est un pilote qui est top vraiment dans une écurie qui est moyenne et un pilote qui se retrouve à être moyen dans un top team. C'est ça l'enseignement.
Tu fais référence à son passage chez McLaren,
Chez
ça remonte à
McLaren, tout à
quelques
fait.
années. Pour ceux qui sont plus jeunes, peut-être il faut resituer.
Oui, tout à fait. Et je remonterai même à une année précédente, au Grand Prix de Malaisie, à Sepang en 2012, où il mène sur la fin du Grand Prix. Il est poursuivi par Fernando Alonso. Les conditions de piste sont difficiles. Il est au volant d'une Sauber. C'est difficile de dépasser sur le circuit parce qu'Alonso n'a pas véritablement un avantage. Alonso est dans une Ferrari, Alonso le pousse et Pérez craque. Et le sentiment qu'on a à la fin de cette course, c'est que de toute façon, si Pérez avait été dans une Ferrari en tête avec Alonso qui lui mettait la pression derrière dans une Sauber, le résultat aurait été le même. Alonso aurait gagné. McLaren l'a pris. C'était d'ailleurs un petit peu surprenant parce qu'il était un pilote de la Ferrari Driver Academy. Et ça s'est très mal passé. Je trouve que dans cette année 2013, il a développé un pilotage détestable. Button le faisait tourner en bourrique, hein, il n'y a pas d'autre mot. Il était plus rapide en qualif et il jouait vraiment à coup de roue en course. Et puis, il s'est replié sur une solution qui s'appelait Force India, une écurie qui en était encore à sa montée en puissance, qui n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui sous le nom de Racing Point. Et là, il a construit petit à petit quelque chose.
Il s'est construit lui-même en même temps. Hein. C'est là aussi ouais. qu'il faut le dire, hein. Avec le temps.
Oui, mais il était sorti des radars, des grandes équipes, Red Bull, Mercedes, Ferrari, etc. Et je pense que quand l'occasion passe, il faut la saisir et elle ne repasse plus après. Il a eu sa chance et même s'il a 30 ans, je ne le vois pas piloter dans une grande équipe. Et je ne pense pas que Red Bull se penchera sur son cas juste parce qu'il a remporté un Grand Prix. Je dirais malheureusement, voilà.
On verra ça. Cette victoire, en tout cas, elle permet à Sergio Pérez de passer à la quatrième place du classement des pilotes avec désormais 13 points d'avance sur Daniel Ricciardo. 13 points, c'est beaucoup, sachant qu'il ne reste que un Grand Prix à disputer. Ça ne va pas arranger les états d'âme dont on avait parlé il y a quelques semaines, même quelques mois, du côté de Racing Point, où vraiment Sergio Pérez fait partie de la famille et il va devoir laisser sa place pour un quadruple champion du monde. Et il y a un petit peu d'état d'âme chez les mécaniciens, tout ça. Ça va pas être un moment facile pour l'ensemble de l'équipe et il faut s'attendre à avoir beaucoup, beaucoup d'émotions à l'issue du Grand Prix d'Abu Dhabi, qui sera la dernière épreuve de la saison la semaine prochaine, au moment où Sergio Pérez va achever pas 9 années de présence chez Racing Point et Force India cumulé, mais ça fait un moment qu'il y est et je suis sûr qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'émotions. On verra, peut-être que ça sera encore sur le podium pour le Mexicain. Et bien justement, on va parler de celui qui aurait pu s'imposer sur ce Grand Prix de Sakhir, c'est George Russell. On rappelle le contexte rapidement. Dans la nuit de lundi à mardi, Toto Wolff appelle George Russell en lui disant « C'est toi qui vas remplacer Lewis Hamilton positif au Covid. » Et évidemment, George Russell a sauté sur l'occasion. Il part en première ligne, il fait un meilleur départ que Valtteri Bottas. Il mène l'essentiel du Grand Prix. On a failli avoir donc un nouveau vainqueur, autre que Sergio Pérez. Et puis finalement, ça ne l'a pas fait. On va y revenir, mais d'abord, toi, tu tenais, Stéphane, à revenir sur le casting, parce que toi, c'est le casting qui t'a surpris. On l'a évoqué la semaine dernière, il y avait trois possibilités pour Toto Wolff. George Russell, donc c'est celui qui l'a choisi, Stoffel Vandoorne, qui est le pilote de réserve, et puis Nico Hülkenberg, qui est le remplaçant habituel cette saison. Et toi, de voir George Russell dans la Mercedes, ça t'a surpris?
Alors, c'est pas exactement ça m'a surpris. Moi, la semaine dernière, c'était mon favori, je dirais, parce que tout parlait pour lui, mais officiellement, c'était Stoffel Vandoorne qui était pilote de réserve, Toto Wolff a absolument toisé. Donc, je ne sais pas à quoi sert en fait un pilote de réserve dans une écurie.
Alors, je vais te dire mon sentiment. Ce qu'on appelle un pilote de réserve en Formule 1, c'est un pilote sur lequel on a des réserves. c'est pas un remplaçant potentiel, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire?
C'est une façon de voir les choses. Je l'avais pas compris comme ça, mais voilà.
Et en tout cas, ça nous a confirmé cet état de fait.
Oui, tout à fait. Alors, moi, ce que j'ai regretté un petit peu, c'est ce sentiment d'improvisation. Russell était chez Williams depuis début 2019. Mais Toto Wolff, en fait, dès qu'il apprend le cas positif de Covid, donc de Lewis Hamilton, il appelle Russell avant même de prévenir les autres personnes. Ça veut dire que dans sa tête, il n'y a pas d'hésitation, des choses sont claires. C'était Russell. Et là, en fait, on se retrouve à mettre, en cette période de Covid, où un pilote peut manquer à l'appel sur un Grand Prix, Hamilton ou Bottas, on se retrouve en fait à prendre un pilote dont on n'a pas le baquet exactement aux dimensions faites pour cette W11, donc la voiture de cette année. Et moi, j'en suis étonné parce que finalement…
Il n'y avait même pas une combinaison de prête, hein, tu me disais en préparant l'émission.
La famille a porté le casque à l'usine de Brackley qu'ils ont renvoyé au circuit. Ils ont fabriqué une combinaison en Italie qu'ils ont ensuite envoyé en Angleterre pour la transmettre ensuite aux pilotes à Bahreïn. Donc, il n'y avait rien de prêt. Donc, ce n'était pas une hypothèse, en fait, pour Mercedes qu'un pilote manque. Donc, c'est un petit peu surprenant. Et puis, effectivement, il y a l'histoire de ce baquet, ou en tous les cas, de son installation dans la voiture. Et le baquet, c'est quand même la pièce la plus personnelle qui soit. C'est quelque chose qui est fait, qui épouse exactement les formes du corps, qui est moulé à l'usine pendant l'hiver, tranquillement, etc. Donc, Mercedes n'a pas fait cette démarche. Ou alors, ils avaient peut-être un baquet pour vendre, mais ça servait à quoi s'ils n'étaient pas intéressés par ces services? Mais en tous les cas, ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour George Russell. Là, j'en suis surpris. Et le pauvre fait 1m85, presque 1m86. Et habituellement, c'est Hamilton et Bottas qui sont dans la voiture. Bottas fait 1m73, Hamilton 1m74. Donc, il y avait 12 cm d'écart. Et on a retrouvé un petit peu cette situation paradoxale, je dirais, réglementairement parlant, où aujourd'hui, une Formule 1 moderne ne peut pas convenir à n'importe quel pilote qui veut s'y installer. Alors, globalement, la taille moyenne pour un pilote de Formule 1, c'est entre 1m67 et 1m72. C'est un petit peu le format jockey, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et si on veut s'installer et qu'on est grand, eh ben, ça devient tout de suite compliqué.
T'as pas beaucoup traîné sur les hippodromes, toi, parce que 1m72, pour un jockey, je peux te dire que c'est très, très grand.
Alors, pour un pilote de Formule 1, bien entendu, mais... Là, cette question n'a pas été réglée par la FIA qui a travaillé sur l'intégration des pilotes parce qu'ils doivent sortir en 5 secondes du baquet. Et ça a posé quelques problèmes dans les années 90. Il y avait le cas soulevé par Wurz qui était très, très mal placé dans sa voiture. Et ce problème de baquet aussi qui a causé la fin de carrière de Mansell. Le jour où il est arrivé dans la McLaren, elle n'était pas prévue pour lui.
Il ne rentrait pas dedans.
Il y avait eu des structures en fait, que la FIA avait renforcées sur le côté, les parois latérales du baquet. Et pour passer le crash test, en fait, mais McLaren n'avait pas trouvé autre chose que de mettre ces plaques en fait, à l'intérieur du baquet, alors qu'elles auraient dû être à l'extérieur, parce que c'est priorité à la performance. Et Mansell ne pouvait pas loger dans cette voiture. Il était certainement corpulent, mais c'était un peu compliqué. Et aujourd'hui, la FIA ne prévoit pas des dimensions minimales pour installer un pilote comme ça. C'est un petit peu dommage. On l'a vu, il était très, très haut. Alors, ça pose des problèmes... parce que de turbulence contre le casque. Enfin, moi, je pense qu'il a fait un Grand Prix d'une façon quand même très inconfortable, avec des bottines, une pointure de moins. Enfin, c'était l'enfer. Et malgré ça, quand même, il a brillé. Chapeau.
Il a brillé, contrairement à son équipe, hein, qui s'est quand même bien pris les pieds dans le tapis avec ce double changement. Donc, au moment où Jack Aitken casse son aileron, il y a safety car, et là Mercedes choisit de faire rentrer les deux voitures pour remettre des pneus neufs pour être certain d'être en bonne condition jusqu'à l'arrivée. Sauf que il y a un pataquès, une erreur de radio qui ne fonctionne pas. On se retrouve à mettre sur la voiture de George Russell qui arrive en premier, forcément dans les stands puisqu'il est en tête de la course. On lui met les pneus avant de Bottas sur le train avant et ses propres pneus à l'arrière, évidemment, ce qui est totalement interdit. Donc il a fallu repasser par les stands. S'il n'y avait que ça, finalement, il ressort en cinquième position. Il remonte tout le monde, ce qui est quand même assez incroyable. Et il arrive à finalement reprendre du terrain à Sergio Pérez. Et là... crevaison lente. Bon, bref, la morale de l'histoire, c'était pas son jour. George Russell ne devait pas gagner ce jour-là. C'est quand même assez étonnant hein, de voir ce cafouillage. Et avant même le cafouillage technique dans les stands avec les pneus, il y a eu un cafouillage stratégique. Parce que pourquoi faire rentrer les deux voitures dans les stands au même moment? Je comprends pas l'intérêt. Si le Mercedes avait peur qu'une autre équipe fasse rentrer une voiture, mettre des pneus neufs et soit plus performant sur la fin de course. Pourquoi ne pas en faire rentrer qu'une seule? Je ne comprends pas pourquoi on a fait rentrer les deux autos. C'était prendre un risque pour les deux voitures au lieu d'en assurer au moins une. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Alors oui, d'abord, c'est une petite ironie parce que c'est le remplaçant de George Russell chez Williams qui provoque l'incident. C'est une autre ironie parce que Mercedes vous avait promis de régler ses problèmes de communication après Monza qui avait coûté la victoire à Hamilton. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Et donc, il avait fait entrer dans une pit lane qui était fermée, donc il avait une pénalité. Et puis là, en fait, ils se sont pris les pieds dans le tapis sans Hamilton. Moi, je pense que si ça avait été Hamilton et Bottas, ils auraient appelé Hamilton pour savoir s'il voulait rentrer ou non. Et lui, il aurait dit « je reste en piste, point barre ».
Et on aurait fait rentrer Bottas.
En partageant les risques, voilà.
Alors, sauf que là, si tu fais rentrer Bottas, quelque part, on va te dire, tu condamnes Bottas pour favoriser le coup du week-end avec, avec George Russell. Donc, ils se sont peut-être dit, bah, on fait rentrer les deux, comme ça, on est tranquille.
Et Bottas qui jouait la deuxième place quand même, et c'est important de prendre le maximum de points, parce qu'avec 13 ou 14 points de plus, il était vice-champion du monde à coup sûr. Mais cette crevaison est-elle surprenante en fin de parcours pour George Russell? Au 30e tour, Mercedes a appelé Bottas pour dire « Attention, ne va pas sur la bordure du virage numéro 8 ». Les deux voitures, donc lui et celle de Russell, ont déjà été averties une fois pour dépassement track limit, dépassement hors de la zone de la piste, quoi, donc hors trajectoire compétitif, on va dire. Et Russell, il s'est un petit peu fait plaisir quand même en attaquant. Il a été un petit peu timoré, il a mis 5 tours pour dépasser Bottas, et puis après, il est allé franco parce qu'il sentait qu'il y avait la victoire au bout. Je pense que la crevaison vient d'une prise de risque quand même peut-être trop importante. Et c'est ce qui fait peut-être aussi la différence avec un garçon comme Lewis Hamilton qui va être capable d'aller vite sans prendre ce type de risque.
Alors, ce que je te propose maintenant, Stéphane, c'est de faire très rapidement un jeu de gagnant-perdant de la situation après ce week-end. Évidemment, on va commencer par les perdants. Parmi les perdants, il y a Lewis Hamilton qui, évidemment, n'a pas pu continuer à accroître son nombre de victoires. Et puis surtout, voilà, George Russell, on le met dans la voiture et ça fait une course qui, normalement, aurait dû lui permettre de gagner. Ça accrédite l'idée que c'est la voiture qui gagne ou qu'en en tout cas, il suffit de mettre un bon pilote pour que la Mercedes W11 aille gagner un Grand Prix.
Rien n'empêche de penser que Hamilton aurait fait la pole position avec 2 dixièmes d'avance sur Bottas, que Hamilton aurait gagné avec 10 secondes d'avance sur Bottas ou Russell, parce que Hamilton a quand même des capacités hors norme.
Et oui, clairement.
Je ne l'aurais pas vu au milieu de ces deux pilotes-là. Forcément, il a une petite marge supplémentaire, mais c'est vrai que ça pose réellement cette question.
Est-ce que ça ne va pas compliquer, Stéphane, excuse-moi, est-ce que ça ne va pas compliquer le fait là, de négocier, en tout cas rajouter un élément pour négocier le contrat? Parce que finalement, là, tu ne peux plus demander 500 millions de dollars, sachant que on met un bon pilote dans la voiture, parce que George Russell est un bon pilote, et ça le fait aussi.
On sait quand même que Hamilton, je dirais, est bankable. Il a une valeur marketing extraordinaire. Il rapporte beaucoup plus en termes d'image que ce qu'il coûte réellement, je veux dire. Donc, ils ont tout intérêt à le garder. Après, ça, c'est toujours un rapport de force, une négociation. Mais le grand perdant dans tout ça, de toute façon, c'est Bottas qui a un contrat juste pour 2021 et basta. Et tout le monde a envie de voir Russell en 2022 dans la voiture. Et je pense même que ce n'est pas Toto Wolff qui va décider. C'est le big boss de Daimler-Benz qui va dire « Tu me mets ce gars dans la voiture, tu me mets ce jeune dans la voiture. » Et s'il est très, très bon, il sera le remplaçant d'Hamilton.
Là, ça le message…
C'est un peu curieux. On aura une doublette potentiellement britannique dans
l'UEM. C'est possible. Alors, mais là, en tout cas, le message qu'a dû envoyer George Russell à Valtteri Bottas, c'est lui dire « J'espère que tu as mis le contrat au coffre, parce que si je le trouve dans le bureau, je le déchire et tu ne rouleras pas pour Mercedes la saison prochaine. » Parce que vraiment, il y a tout fait. Il a pris un meilleur départ. Il lui fait un dépassement par l'extérieur après le restart qui a coupé le souffle. Alors après, on pourra toujours dire que Bottas n'avait pas les bons pneus, que ça n'allait pas. Oui, mais quand même. Oui. Quand même, là, c'était incroyable. Donc, les gagnants, évidemment, George Russell. Et puis, donc, un petit peu Toto Wolff, parce que il fallait quand même avoir le courage de laisser le pilote de réserve en réserve et de mettre George Russell, qui n'a pas marqué un point depuis 2 saisons en Formule 1. Et ça fait une course qui aurait dû être celle du vainqueur. Donc, là aussi, des bons points pour Toto Wolff.
Oui, et du côté des perdants, alors, relativement, dans une moindre mesure, à plus long terme, peut-être, Esteban Ocon, qui est un pilote aussi géré par Mercedes, qui a un contrat, qui est sous contrat avec Renault, au moins jusqu'en 2021, avec une option sur 2022 à la discrétion de l'écurie, si on a bien compris. Mais il rêve de cette voiture aussi à plus long terme. Bon. Et là, c'est vrai qu'il vient de se faire doubler par Russell, sans aucun doute.
Bon, bref, tout ça nous promet quand même quelques belles sessions de négociations l'année prochaine, hein, puisqu'on sait que de toute façon, Valtteri Bottas a signé pour 2021 chez Mercedes et qu'on ne voit pas Toto Wolff se séparer de Hamilton, même si, évidemment, le contrat n'est pas encore signé, mais c'est qu'une formalité. Il n'y aura absolument aucun doute sur le renouvellement du contrat de Hamilton. On en reparlera, mais clairement, George Russell, là, il a fait ses preuves. Alors, peut-être qu'on peut s'attarder 20 secondes sur Bottas, qui est le grand perdant. Je disais, il se fait dépasser au départ. Il se fait dépasser par l'extérieur après le restart. Est-ce que Valtteri Bottas a passé une bonne nuit dimanche soir à Bahreïn? Je ne suis pas convaincu, hein.
C'est vrai qu'il s'est acheté ses propres problèmes. Il a fait un moins bon départ alors qu'il était sur la partie propre, la plus passante en fait, de la piste. On l'avait vu 8 jours plus tôt sur le départ du Grand Prix de Bahreïn. Les positions 1, 3 et 5 avaient été avantagées. Et là, il n'a pas tiré parti de sa pole position. Je crois qu'il passe de 0 à 200 en 5 secondes 10 et Russell en 4,75, hein, si j'ai bien vu. Et puis, il est tout simplement mauvais à la sortie du virage numéro 2. Et puis après... Russell s'échappe et on voit très clairement qu'il craque un peu, quoi. Et tout est allé vraiment de travers. Hein. Et puis derrière, effectivement, il attend, il est en deuxième rideau. C'est le grand perdant. Il a dit, je pense que les gens, enfin, je suis passé pour un idiot auprès des gens. Et là, c'est la perte d'image est conséquente. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'il peut réparer maintenant, quoi. Non, c'est clairement. Vraiment un souci pour lui.
Ça va être compliqué hein, pour Valtteri Bottas là, dans les prochaines semaines. Et puis, on pense déjà à ce Grand Prix d'Abu Dhabi où, quelque part, il va falloir qu'il se refasse. Surtout si George Russell est reconduit au volant de la Mercedes. Ça, c'est une question, c'est une information qui va arriver dans les heures, les jours à venir. Savoir si Lewis Hamilton a un test négatif et à ce moment-là, il va reprendre son volant. Il aura peut-être intérêt, d'ailleurs. Ou bien si c'est George Russell, de nouveau, qui roulera dans la Mercedes à Abu Dhabi. On va passer à cette deuxième place et donc à ce premier podium en Grand Prix pour Esteban Ocon, le Français qui finit donc deuxième de ce Grand Prix de Sakhir. Derrière son ancien coéquipier d'ailleurs chez Force India, Sergio Pérez, ça ne s'était pas toujours très très bien passé, la cohabitation entre les deux. Là au moins, ils étaient heureux tous les deux, en larmes tous les deux. C'était assez, assez étonnant. Une belle récompense pour celui qui a été trahi 4 fois hein, depuis le début de la saison par sa Renault. Et c'est un résultat, Stéphane, qui arrive à point nommé pour Esteban Ocon, parce qu'on avait besoin et on voulait le voir performer sur la fin de saison chez Renault.
Oui, c'est le meilleur résultat de Renault, c'est le troisième podium de l'écurie, et ça, c'est ce qui restera. Il termine deuxième quand même, hein. C'est le plus beau résultat de Renault cette saison. Ça assure aux losanges la 5e place à minima au championnat constructeur. La 4e est encore accessible, ça va être un petit peu compliqué, mais je crois qu'ils sont à 12 points de McLaren. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que ce podium arrive après la victoire de Pierre Gasly à Monza, et on n'avait pas vu deux Français sur un podium une même saison depuis 1997, avec Olivier Panis et Jean Alési. Donc là, il y a quelque chose, il y a un vent fraîcheur là, quand même, qui souffle sur la Formule 1 française, et spécialement sur lui, et ça arrive à point nommé parce que à la veille des essais, Alain Prost, en conférence de presse, avait mis la pression, clairement, avait mis Ocon devant l'obligation d'obtenir deux résultats significatifs lors des deux derniers Grands Prix, et il avait dit très clairement, enfin il avait sous-entendu que psychologiquement, pour Ocon, c'était quand même dur de se faire battre régulièrement en qualif par Ricciardo. On en est à 15 défaites entre guillemets sur 16 séances du samedi, donc c'est quand même énorme. Et puis Prost lui avait demandé d'être plus régulier en course, d'être aussi régulier que Ricciardo, parce qu'il a dit Fernando Alonso arrive, et là il va falloir être prêt pour la guerre, on va dire. Je ne veux pas utiliser les grands mots, mais c'est un petit peu ça, prêt pour la bataille vraiment. Et puis Alonso, tu l'as vu, Gilles, il est en train de traîner sur la grille de départ, en train de tout surveiller, en train de faire le tour de la voiture, de regarder les process. Il veut être sûr de tout. Là, il veut s'imprégner de cette ambiance, de la façon dont travaille Renault, qu'il connaît bien déjà. Mais ça, c'est une pression supplémentaire pour Ocon. Et je dirais que je ne sais pas si c'est très judicieux, mais c'est quelque part nécessaire parce que ça le met déjà dans le bain pour l'année prochaine, Esteban Ocon. Donc après, là-dessus.
Après, Stéphane, on peut peut-être retourner aussi le truc. Hein. C'est qu'effectivement, il a été dominé en qualification et au classement des pilotes, il est aussi dominé par, par Ricciardo. Mais n'empêche que il montre que voilà, et ça l'a pas abattu, il est encore là et il est capable d'aller chercher une deuxième place en Grand Prix. Ça dit aussi qu'il est costaud sur la longueur, et c'est important pour un pilote et pour un patron d'équipe de savoir qu'on a un pilote qui sait résister, qui a du répondant même après avoir été dominé l'essentiel de la saison.
Oui, je pense que c'est une saison qui est très importante pour lui, qui lui servira plus tard. Ça, c'est en train de se forger mentalement, c'est ce qu'il fait depuis qu'il est en Formule 1 et même dans les catégories précédentes, inférieures. Mais là-dessus, ça lui servira beaucoup. Mais il lui manque encore techniquement ce quelque chose. Je pense que ce résultat, ça va lui donner de la confiance. Je ne sais pas si ça va le rendre plus rapide. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire, Gilles. En fait, c'est une question après de méthode de travail. On sait qu'il a changé de méthode de travail depuis Monza avec son ingénieur Mark Slade. Et il essaie de mieux construire son week-end pour ne pas être perdu, enfin avoir un setup qui est déjà proche de la vérité le vendredi soir, pouvoir l'ajuster des essais libres à la qualif et puis de faire ensuite des relais qui tiennent. Là, c'est un petit peu sa difficulté aussi le dimanche par rapport à Ricciardo. Et on a vu que samedi, c'est encore difficile. Il était en haut de l'affiche ou presque lors des derniers essais libres, trois. Ouais. Et puis, Ricciardo revient comme une balle en qualif et passe en Q3 et Esteban Ocon reste à quai. Et c'est pour moi la vraie difficulté, elle est là, quoi. Et c'est le cœur du problème. C'est ça. Et ça sera l'enjeu encore avec Alonso l'année prochaine. C'est là-dessus qu'il faut qu'il progresse.
Clairement. Alors, je voudrais aussi parler du paradoxe qui a surgi de ce Grand Prix de Sakhir pour l'équipe Renault. Parce que cette deuxième place, ça valide aussi en quelque sorte les progrès qu'on avait notés depuis quelques temps chez Renault. Sauf que ce n'est pas une bonne opération au classement des constructeurs, parce que alors que Renault collecte, alors c'est toi qui m'avais donné ce total hein, pendant qu'on préparait les fous du volant, je crois qu'ils ont marqué 28 points, Renault, ce qui est leur meilleur total depuis Spa, ou à égalité d'ailleurs avec Spa, et ça tombe juste le week-end où Racing Point en marque 40, donc forcément, c'est pas une bonne opération arithmétique.
Je crois que c'était 22 à Spa, oui.
C'était 22, d'accord.
Donc 28, c'est vraiment le record.
Voilà, et ça veut dire que Renault est toujours cinquième au classement des constructeurs, alors qu'ils se battent avec Racing Point et avec McLaren, mais Racing Point a 22 points d'avance maintenant sur Renault, et McLaren en a que 12. 22 points sur un Grand Prix, ça paraît quand même très compliqué à aller chercher. Il ne reste qu'une seule course. Alors éventuellement, la quatrième place, avec ses 12 points de retard sur McLaren. C'est paradoxal, quoi. On vient de mettre le pilote qui va rester l'année prochaine sur la deuxième marche du podium. C'est son premier podium. On devrait être totalement content. Et puis, le soir, quand on fait les comptes, on a perdu du terrain.
Oui, et puis le constat est le même pour Ricciardo qui s'est fait subtiliser la quatrième place au championnat. Un top 4 pour un pilote Renault, ça aurait été beau. Là, Ricciardo, on ne l'a pas vraiment vu. Et c'est un petit peu regrettable parce que finalement, là où il y avait des belles opérations à faire, Monza, Istanbul, Sakhir 2, il n'est pas allé chercher ce résultat qui fait la diff, vraiment. Alors qu'il y avait vraiment de la place, hein, quand on voit la composition du podium, Ricciardo a manqué quelque chose quand même.
Mais donc, on l'avait dit, hein, que
c'est un paradoxe.
On avait dit qu'il n'avait pas beaucoup pesé, notamment à Istanbul. Et là, c'est pareil, il n'a pas énormément pesé sur ce Grand Prix de Sakhir. Alors évidemment, on va beaucoup compter chez Renault sur Esteban Ocon lors du tout dernier Grand Prix de la saison pour tenter d'aller arracher cette quatrième place, voire même cette troisième place, mais on l'a dit, ça paraît quand même assez peu probable, mais on va beaucoup compter sur Esteban Ocon pour amener un maximum de points, parce que Daniel Ricciardo, il a été admirable d'investissement et d'esprit tout au long de la saison, mais c'est la bagarre contre McLaren, et Ricciardo va quitter Renault pour aller chez McLaren. Consciemment ou non, ça va être compliqué quand même pour lui d'aller chercher le dernier centième pour priver éventuellement McLaren de cette quatrième place au classement des constructeurs, et donc évidemment éventuellement son propre budget pour l'année prochaine. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, je pense qu'il courra dans sa tête pour faire un podium, donc il n'aura pas de réticence. Et puis l'année prochaine, quand même, c'est les budgets cap, c'est le budget limité qui va être instauré. Ça signifie que chaque écurie devra fonctionner avec une enveloppe précise. Donc, il y aura plus d'argent chez McLaren qui viendra de la part de la redistribution des droits commerciaux, de la part du promoteur. McLaren complétera ensuite avec des sponsors. Donc, je ne sais pas réellement si ça fera la différence. Mais non, je crois vraiment foncièrement en la loyauté de Ricciardo qui a envie de bien terminer cette histoire.
Tu crois pas qu'Andrea Seidel il va dire à Ricciardo, bon, t'énerve pas trop hein, dimanche, hein, à la cool.
je ne sais pas si ça s'est déjà produit, si c'est déjà arrivé, mais non, je pense vraiment que Ricciardo a envie de finir sur une belle note parce que c'est important aussi pour lui de montrer pour son avenir, dans sa carrière, qu'il est un pilote loyal, tout simplement.
Voilà, puis on a eu, parce que tu as assisté à une conférence de presse avec assez peu de journalistes d'ailleurs, félicitations Stéphane. On a quelques informations sur le tatouage de Cyril Abitbol en provenance de Daniel Ricciardo. Je crois que tu as des news là-dessus. Toi. Ah oui, attends, on parle d'informations importantes dans les fous du volant, s'il te plaît.
Oui, tout à fait, tu as raison Gilles. Non, je lui ai demandé ce qu'il en était. Il a dit qu'avec le confinement, ça sera difficile de faire ça avant la fin d'année, qu'il espérait plutôt le faire en janvier, si les commerces étaient ouverts, et forcément les tatoueurs. Et il a dit, j'espère faire ça à Londres, quand Cyril sera à Enstone, on se verra tranquillement. Donc, c'est ça qui est sympa aussi, il sera officiellement un pilote McLaren et continuera d'avoir quelque part un attachement aussi à Renault. Et il a dit qu'il insisterait quand même pour avoir ce blaireau.
Alors, c'est un blaireau
sur la plate. Voilà. Tout à fait, qu'il voulait quelque chose qui soit assez dans le style, dans sa style de tatouage bien conventionnel. Hein. Il ne va pas faire quelque chose de fantaisiste. Et Cyril Abitbol a choisi l'endroit. Il se fera tatouer sur une cheville. Donc, ça sera quand même assez discret.
D'accord.
Somme toute. Mais Dan a dit, il aura comme ça quand même de quoi se souvenir de moi pour toujours.
Bon, eh ben au moins, voilà, dans les fous du volant, vous avez quand même l'information de la semaine. Ça sera un blaireau sur la cheville de Cyril Abitbol. On est pressé de voir les images. On sent qu'on va bien rigoler. Il y a un endroit où on n'a pas vraiment rigolé ce dimanche, c'est dans le box de la Scuderia Ferrari. Alors, autant samedi, il y avait des grands sourires après ce coup de tonnerre, hein, cette qualification magistrale de Charles Leclerc qui était allé hisser sa Ferrari en deuxième ligne. Et puis le Monégasque, je ne sais pas comment présenter ce dépassement raté dès le premier tour sur Sergio Pérez pour Charles Leclerc. Est-ce qu'il a été trop pressé? Est-ce que... J'ai l'impression qu'il a voulu tout faire tout de suite, Stéphane. Et alors, il y avait aussi Max Verstappen qui était dans le coin. À ce moment-là, vraiment, on est au deuxième ou au troisième virage de la course. Et entre les deux, déjà, depuis le début de la semaine, il y avait commencé à y avoir quelques échanges d'amabilité, il me semble.
Oui. Alors, Verstappen, déjà, juste pour l'anecdote, il nous a fait une Raikkonen. Il a dit, je suis rentré à mon hôtel et j'ai vu les 20-30 derniers tours, en fait, en sirotant un gin tonic. Donc, il n'était pas sur un yacht à Monaco.
Comment ça, il boit pas la boisson qui le paye?
C'est vrai qu'il a fait une faute de goût là. C'est du tout, je n'y avais pas pensé. Mais effectivement, ça, bon, la relation est un petit peu aigre-douce entre les deux. C'est pas une détestation. On va pas fabriquer une rivalité sur ce plan-là. Mais ça avait commencé à faire des étincelles. Si tu te souviens bien, Gilles, à Austin en 2019, donc il n'y a pas très longtemps, c'est il y a un an en fin de saison. Ferrari avait été obligé de mettre son moteur un petit peu en conformité, et là, d'un seul coup, ils avaient perdu de la performance de façon très bizarre. C'était peut-être une coïncidence, mais Verstappen avait dit à l'arrivée, voilà ce qui arrive quand on arrête de tricher. Et là, chez Ferrari, on ne l'avait pas bien pris du tout, et Leclerc était monté au créneau en disant, il ne sait vraiment pas ce qu'il raconte, il ne sait pas ce qui se passe dans l'équipe, ce sont des inepties. Et en début de semaine, on lui avait demandé à Charles Leclerc dans l'interview qu'est-ce qui est un petit peu le défaut de Max Verstappen. Et il avait dit grosso modo, il raconte un petit peu plus de bobard qu'il devrait, quoi. Ça lui arrive un petit peu plus souvent qu'il faudrait. Et on avait rapporté ses propos à Verstappen, il a dit je m'en fiche complètement. Donc c'était pas le grand amour. Et on a vu que la discussion, l'échange a été bref après l'accrochage. Mais j'ai pensé que Verstappen allait un petit peu s'en prendre à lui comme il avait eu envie de s'en prendre à Ocon au Brésil, quand Ocon lui avait fait manquer une victoire. Et en fait, Leclerc s'est juste interrogé sur le... Bon, bah, il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas compris ce qui s'est passé, quoi. Mais ce qui me surprend, oui, c'est que Leclerc, je pense, était passé à quelque chose de vraiment très raisonnable. Il avait dit avoir tiré les enseignements de sa bourde à Spielberg lors de la deuxième course, je crois, lorsqu'il avait percuté
Vettel, Leclerc, en plus.
Vettel, pardon. Et là, il recommence. Et en fait, il y a 8 jours, donc, Vettel s'était plaint déjà de Leclerc dans le premier tour de son agressivité. Il avait dit, mais franchement, il se met là, il s'impose et il pense, en fait, il compte sur le fait que les gens vont se ranger. C'est un petit peu ça. Et là, je trouve qu'il est retombé un petit peu dans ses travers. Il s'est un petit peu comporté comme un junior d'une catégorie inférieure. Il avait 2 longueurs de retard au moment de freiner. On voit bien un Verstappen entre les 2 voitures, entre Bottas et Pérez. Et puis donc, en fait, il fait un freinage qui est assez prudent, Verstappen. Et Leclerc se dit, je vais y aller carrément. Quoi. Bon. Et il freine beaucoup trop tard, ou pas nous, mais vraiment trop tard. Il percute Pérez. Et Leclerc, en fait, se démonte pas. En zone mixte, il dit, j'ai pas fait une grande erreur. Et puis, il dit, je pensais que Pérez allait vraiment rester à l'extérieur. Ben non, en fait, il a pris l'intérieur et je le blâme pas pour ça. Encore heureux. Verstappen, il a dit oui. Il fallait quand même se douter que Pérez, à un moment, allait tourner. Voilà. Donc, c'est un petit peu surprenant de la part de Leclerc. Je trouve que c'est un petit peu en même temps décevant. Il jouait la 4e place du championnat. Il a tout gâché.
Oui. Alors. Mon sentiment à moi, Stéphane, c'est que je comprends ce que tu dis, je ne suis pas loin de le partager, mais j'ai un petit peu le sentiment qu'en ce moment, Charles Leclerc, il est en proie, tu sais, au syndrome du sauveur qu'on peut ressentir quand on est entouré par des gens qui ne vous inspirent pas confiance et où vous vous dites, en fait, je suis le seul à pouvoir tenir la baraque. Sauf qu'un homme seul... ne peut pas éviter au Titanic de percuter l'iceberg. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on voit, hein, effectivement, que Charles Leclerc tente des choses qui sont très, très osées. Alors, quand ça passe, évidemment, on s'extasie. Et quand ça ne passe pas, on se dit, bah oui, mais comment il pouvait penser que ça allait passer? Bon, c'est toujours le côté du zéro au héros ou du héros au zéro. Effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est la double peine, en fait, pour Charles Leclerc. D'abord parce que, déjà, ça pénalise Ferrari, parce que Ferrari remontait sur le groupe qui était à la bagarre pour la 3e place au classement des constructeurs. Et là, cette fois, avec 41 points de retard sur Renault, à moins d'un miracle, il n'y aura pas mieux que la 6e place au classement des constructeurs pour Ferrari. Et puis, c'est perdu aussi probablement pour la 4e place au classement des pilotes parce qu'au départ de ce Grand Prix de Sakhir, Leclerc avait 4 points de retard sur Ricciardo et 2 sur Pérez. Pérez qu'on a marqué 25, donc ça y est, il est déjà hors d'atteinte du pilote monégasque. Et pour aller chercher Ricciardo, ça va être d'autant plus compliqué qu'il va prendre 3 places de pénalité à la suite de cet accrochage sur Pérez lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Et ça me fait presque mal au cœur parce qu'on sent bien qu'il essaye de porter cette équipe plus haut qu'il ne le peut lui tout seul et ça se retourne en fait contre lui.
Oui, chez Ferrari, Vettel a été une fois de plus fantomatique. Je crois qu'il termine 12e. Donc, en fait, tout repose sur Leclerc, peut-être trop, voilà. Et là, en fait, il est même en danger parce qu'il peut finir 8e du championnat. Sainz est à 1 point derrière lui et Albon à 5 points. Donc, c'est facile d'imaginer qu'il perde même 2 rangs au championnat, ce qui serait vraiment incroyable. Passer de la 4e à la 8e place en quelques grands prix, quel gâchis, franchement. En fait, là où j'ai été déçu de cet accrochage, c'est que je me suis dit, il ne raisonne pas comme un pilote qui envie un jour de jouer le titre. Et alors, c'est un paradoxe parce que Verstappen a dit « Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être agressif comme ça dans le premier tour d'un Grand Prix en se comportant comme si on était dans le dernier tour ou l'avant-dernier tour. » C'est quand même ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière, Verstappen. Bah, et là, il commence à raisonner, à se préparer un jour à se battre pour le titre. Donc, il fait des choses qui sont vraiment… Il est safe dans ses débuts de course. Et les rôles sont un peu inversés par rapport à Leclerc qui passait pour quelqu'un de vraiment très raisonnable et là qui a rechuté. Et ça en dit long aussi sur l'ambition de Verstappen qui se défend de viser absolument la deuxième place. Il a dit « je m'en fiche ». Il utilise beaucoup cette expression, mais je pense qu'il ne s'en fiche pas tant que ça parce que cet accrochage pour lui dans son esprit, c'est ce que ça voulait dire aussi. Il jouera quand même la deuxième place à Abu Dhabi, mais pour Leclerc, ça risque quand même d'être la soupe à la grimace. Alors, je ne sais plus au classement, je n'ai pas le classement en tête, mais je crois que Vettel est 13e au championnat, quelque chose comme ça, avec un nombre de points qui n'est pas
pour l'instant, tu as tout bon.
Leclerc, s'il finit 8e, bon, bah, ça validera effectivement la plus mauvaise saison de Ferrari depuis 1980. Et la 10e place au championnat constructeur, quand même. Donc, ça a de quoi être décevant pour les tifosi.
Ouais, je pense que ça en dit long hein, sur l'état psychologique des deux, hein, d'ailleurs, de Max Verstappen et de Charles Leclerc. Et on va lui souhaiter quand même une belle course à Abu Dhabi, parce qu'en plus, ça fera du spectacle, vu qu'il risque de partir encore un petit peu plus loin sur la grille. Mais pour moi, j'y vois vraiment le symptôme de quelqu'un qui se sent le seul capable, en fait, d'apporter quelque chose de positif à cette Scuderia Ferrari qui se débat dans ses déboires. Parce que alors là, évidemment, il y a le dépassement manqué de Charles Leclerc, mais les deux passages au stand de Vettel, c'est une catastrophe. Alors, il y a eu Mercedes qui a ruiné la course de George Russell. On était pas mal aussi chez Ferrari, on n'a pas voulu être en reste. Là, les deux équipes de référence ont vraiment mangé leur chapeau dans les stands de Sakhir. J'ai l'impression qu'on a tout dit, mon Stéphane. Là, on a passé un bon moment ensemble. Peut-être vous donner les rendez-vous importants pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, qui sera la 17e et dernière épreuve de ce championnat du monde 2020. 17e épreuve. Il y a quelques mois, si on nous avait dit qu'on aurait eu 17 épreuves, franchement, on en aurait douté. Donc, 17e épreuve à Abu Dhabi. Les horaires des essais libres 1, vendredi à 9h50. La qualif, samedi à 13h45. Et le Grand Prix, dimanche à 14h10. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Comme ça, au prochain numéro des Fous du Volant, eh bien, vous recevrez directement ce nouvel opus directement sur votre application. Stéphane, vous n'avez plus rien à ajouter ?
Plus rien, si ce n'est le mot de la fin, traditionnel. Allez. Je te laisse prononcer.
Alors on y va. On coupe le contact.
Coupe le contact.
À la semaine prochaine.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.